Aujourd'hui, c'est dimanche, les 4 tops sur France Inter, il est 8h. Et soyez les bienvenus. Voici le journal de Serge Martin. Bonjour Serge.
Bonjour Eric, bonjour à tous. À la une de l'actualité, les joyeusetés du printemps avec un fléau qui s'étend en la personne du moustique-tigre et un pollen de plus en plus allergisant. À suivre, le 12e jour de grève à la SNCF et l'accueil houleux réservé par des cheminots au patron de La République En Marche, Christophe Castaner, lors de son arrivée au Pays Basque. Dans l'actualité de ce dimanche également, l'autosatisfaction de Donald Trump sur l'évolution politique en Corée du Nord et la colère des Espagnols après la requalification d'un jugement pour viol en abus sexuel. Sans oublier un anniversaire, celui des Shaddock qui fête aujourd'hui leur demi-siècle d'existence. Explication pour les moins de 50 ans à la fin de ce journal. Enfin, côté sport, on retiendra le faux pas de Monaco devant Amiens Monaco qui laisse la deuxième place de la Ligue 1 à l'Olympique Lyonnais. Rendez-vous dans le journal des sports présenté par Laetitia Bernard.
France Inter.
Du jamais vu depuis près de 25 ans, les deux tiers de la France connaissent actuellement, selon le réseau national de surveillance aérobiologique, un pic de concentration de pollen et par conséquent un risque élevé d'allergie. Le pollen est partout, c'est normal puisque nous sommes au printemps, mais cette année le niveau est tel que les risques d'allergie sont très nombreux. Il est donc indispensable de prendre certaines précautions et surtout de ne pas hésiter à aller consulter un médecin en cas de gêne. Le reportage d'Aurore Richard dans l'Indre.
Pour aller faire son marché, Brigitte a bien pensé à prendre son écharpe et surtout des mouchoirs, plein de mouchoirs.
J'éternue, j'ai les yeux qui me brûlent. Ah non, je suis pas bien. Mais il faut surtout pas se frotter les yeux hein, parce que le médecin m'a dit que c'était ça aggrave plutôt qu'autre chose. Mais là, vous voyez, j'ai le nez plein ce matin. Donc c'est une allergie qui arrive.
Et elle est loin d'être la seule. Michel Martinez est préparateur dans une pharmacie de Châteauroux.
Dans la journée, vous voyez bien une ordonnance sur 5 de gens qui font les allergies actuellement. Ouais.
C'est donc pour ça qu'il a réorganisé les rayons de son officine.
Là, on a mis tout ce qui est allergique en avant. Rhume des foins, rhume allergie, tout ce que vous voulez.
Les antihistaminiques sont donc en tête des ventes ces derniers jours. Mais la pharmacie n'est parfois qu'une étape, surtout pour les patients à risque.
Des fois, on ne sait pas trop quoi donner. Nous au comptoir pour les enfants, bon, ils vont être en détresse respiratoire souvent après. Donc là après attention, il faut être raisonnable. Si l'asthme devient plus compliqué, direction médecin.
Et si vous désirez être moins gêné par vos allergies au pollen, c'est justement un médecin qu'il faut aller voir. Un ORL pourra vous désensibiliser, mais il faudra être patient car les résultats sont visibles au bout de 3 à 5 ans de traitement.
Oui, très patient même. Et puis, autre sujet de préoccupation, le moustique-tigre cette fois-ci. Si l'on en croit la Direction Générale de la Santé, il sera désormais présent dans 42 départements, le double par rapport à il y a 2 ans. Cet insecte qui remonterait actuellement vers le nord est à surveiller car il peut transmettre des virus tels que le chikungunya, la dengue ou bien encore le zika entraînant fatigue et douleurs musculaires. Nous y revenons dans le journal de 9h.
À la SNCF, Serge, en dépit de quelques signes de fatigue de la part des cheminots, eh bien la grève continue.
Un mouvement qui entame aujourd'hui son 12e jour, alors que 4 Français sur 10 seulement jugent cette grève justifiée, selon un sondage IFOP publié dans le JDD. 62% des personnes interrogées souhaitent que le gouvernement aille jusqu'au bout de la réforme de la SNCF telle qu'elle a été annoncée. En attendant, il ne fait pas bon pour les membres du gouvernement, ou bien alors du parti La République En Marche, de prendre le train en ce moment. Le délégué général du mouvement, Christophe Castaner, en a fait l'expérience hier à Irun, au Pays Basque, en allant tenir un meeting. Christophe Castaner, qui a dû composer à son arrivée avec un comité d'accueil de la CGT, TOH.
Pas de poignée de main pour l'arrivée de Christophe Castaner au Pays Basque, un comité d'accueil qu'il commence à bien connaître.
Est-ce qu'il y a quelques personnes qui veulent être reçues? Je crois qu'on m'a dit oui. Il y a seulement des gens qui veulent crier.
Je parle pas, ils sont des patrons.
Les cheminots ne sont pas très contents de tout ce qui se passe en ce moment, des négociations qui n'ont pas lieu, de votre réforme.
Ça, je l'entends bien, on va en discuter. C'est essentiel qu'on puisse poursuivre le dialogue, même si dans un dialogue, on peut in fine ne pas être d'accord.
Mais le dialogue tourne court.
Il y a des choix politiques qui sont...
Nous, la CSG.
Mais vous avez raison.
Le débat s'est ensuite poursuivi à huis clos. Le patron de La République En Marche a reçu une délégation de cheminots. Discussion pendant près d'une heure. Mais à la sortie, les divergences étaient toujours là.
On a une proposition de loi qui est très généraliste.
mais qui ne rentrent pas assez dans le débat, qui ne rentrent pas assez dans les points précis.
Parce que c'est aussi le projet d'entreprise et que le gouvernement n'a pas vocation à gérer la SNCF. On ne reprend pas le débat. Je vous laisse.
Merci.
Et puis, côté circulation des trains, les prévisions pour aujourd'hui sont les mêmes qu'hier, à savoir un TGV sur deux, un intercité sur trois et deux TER sur cinq.
Plus que quelques semaines, probablement trois ou quatre, avant la rencontre très attendue entre Donald Trump et son homologue nord-coréen Kim Jong-un.
Le président nord-coréen, qui après son entrevue avec son homologue sud-coréen, promet de faire fermer les sites d'essai nucléaire de son pays d'ici à la fin du mois de mai, fermeture à laquelle seront conviés des experts sud-coréens mais aussi américains. En attendant, avant son entrevue avec Kim Jong-un, Donald Trump se félicite de cette rencontre historique entre les deux Coréens, rencontre pour laquelle il n'hésite pas à laisser entendre qu'il en a été l'instigateur. C'était hier soir, lors d'un rassemblement politique dans le Michigan, un meeting suivi par notre correspondant Marco Walter.
I love you too.
C'est donc devant ses supporters dans le Michigan, près de Détroit, que Donald Trump a célébré son rôle joué dans la rencontre historique entre les deux leaders coréens. Le président américain est notamment revenu sur une séquence qu'il a vue à la télévision.
Now they were saying, what do you think,
Il demandait « qu'est-ce que Donald Trump a eu à voir avec ça ?» Eh bien, et si on disait « tout ?» Le président américain a aussi fait le bilan de son entretien téléphonique avec son homologue sud-coréen Moon Jae-in. Nous avons parlé ce matin, il nous attribue énormément de mérites, je veux dire tous les mérites. Puis Donald Trump a justifié ses méthodes diplomatiques peu conventionnelles quand il promettait encore le feu et la fureur à la Corée du Nord. Il disait, il va nous entraîner dans une guerre nucléaire. Non, pas du tout, c'est la fermeté qui va nous éviter une guerre nucléaire. Dans les médias américains, on débat déjà de la possibilité d'un prix Nobel pour Donald Trump. Pour ses supporters, la réponse est claire.
Nobel.
À New York, Marc Voltaire pour France Inter.
À l'étranger, encore un verdict fait scandale, celui prononcé par le tribunal de Pamplune dans le nord de l'Espagne. Les juges ont en effet disculpé de viol cinq hommes ayant abusé d'une jeune femme pour requalifier les faits d'abus sexuels. Selon eux, il n'y a pas eu viol dans la mesure où la jeune femme choquée n'a pas opposé de résistance. Des milliers de manifestants, dont 35 000 à Pamplune, sont descendus hier dans les rues pour manifester leur colère et réclamer une modification du code pénal.
C'est aujourd'hui la journée nationale du souvenir et de la déportation.
Chaque année, le dernier dimanche d'avril est en effet dédié à la célébration de la mémoire des victimes de la déportation vers les camps de concentration et d'extermination nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Françoise Marchelinon, fille de deux déportés, arrêtés en raison de leurs activités de résistance, se souvient au micro de Marie-Ange Escure.
Mon père et ma mère ont été déportés tous les deux. Ils ont été arrêtés trois jours avant leur fiançailles. Ma mère était habitée sur la ligne de démarcation à La Haye des Cartes. Et mon père venu se cacher chez son oncle qui habitait en Touraine. Ils étaient résistants. Ils ont été arrêtés en février 44. Maman est partie en avril et papa en mai 44.
Vous, semble-t-il, vos parents vous ont parlé de ce qui s'est passé pour eux, de ce qu'ils ont vécu?
Pour nous, dans la famille, souvent c'était là-bas. On ne nous disait pas au camp, mais là-bas. On savait qu'il y avait eu un là-bas. Puis petit à petit, ils ont fini par nous laisser rentrer pour dans leur domaine pour savoir ce qui s'était passé. Alors mon père a commencé à Neuengamme, près de Hambourg, Sachsenhausen, près de Berlin, et il a terminé à Buchenwald. Et maman est allée à Ravensbrück, et ensuite dans un commando à Olechen, près de Pilsen, en Tchécoslovaquie.
Allez, dans un tout autre domaine, nous allons nous intéresser maintenant à des êtres andropomorphes, à l'apparence d'oiseaux rondouillards que les moins de 50 ans ne connaissent peut-être pas. Je veux parler des Shaddocks, les Shaddocks et leurs antagonistes, les Gibbies, qui fêtent ce dimanche le 50e anniversaire de leur première apparition à la télévision française. Créée par Jacques Roussel, avec l'aide de René Borg, cette série faisant apparaître ces drôles d'oiseaux pratiquant l'art de l'absurde allait quelque peu perturber les programmes de l'ORTF et faire naître la polémique. Retour sur ce phénomène cathodique en compagnie de Benjamin Ely.
Dès le premier épisode, dès le générique, les Shaddocks ont prouvé qu'ils n'avaient pas peur des fausses notes.
C'était il y a très 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 longtemps.
208 épisodes au total, diffusés entre 1968 et 1975 pour les trois premières saisons et en 2000 pour la quatrième saison sur Canal+. La série raconte donc les mésaventures des Shaddocks, profondément loufoques, du genre bête et méchant, leur vocabulaire est limité. Ils veulent quitter leur planète pour rejoindre la Terre. Pour cela, ils construisent des machines improbables qui ne fonctionnent jamais.
Des machines à pomper des cailloux, des machines à pomper des trucs et des machins.
Les Shaddocks vont susciter l'une des premières polémiques de la télévision française avec un public très divisé qui inonde l'ORTF de courriers incendiaires ou admiratifs. Mais cet ovni télévisuel devient un culte. Claude Piéplu, la voix des Shaddocks, est interpellé dans la rue.
Ah,
Je vous reconnais, vous êtes la voix des Shadok. Alors, que sa voix soit reconnue sans qu'on parle, en passant seulement dans la rue, ça aussi c'est très Shadokien.
L'esprit des Shadok perdure depuis 50 ans. Une exposition leur est même consacrée jusqu'au 18 juillet au musée Tommy Ungerer de Strasbourg. Et pendant tout ce temps, les Shadok, ils ont fait quoi?
Eux, Pompée, Pompée.
Les Shadok et l'inimitable voix de Claude Piéplude, aussi retrouvée sur notre site internet franceinter.fr dans la rubrique culture. En attendant, je vous laisse en compagnie de notre professeur Shadoko, je le nomme Eric Delvaux.
Si seulement.
Rico
et Patoche pour le 6-9 du week-end. C'était le journal de Serge Martin.